Petit bonhomme, chapitre 9. Une idée commerciale de Bob. À un mois de là, sur la route qui descend vers le sud-est de Cork, dans la direction de Youghal, en traversant les territoires orientaux du comté, un garçon de 11 ans, un garçonnet de 8, poussait par l'arrière une légère charrette que traînait un chien attelé entre ses brancards. Les deux enfants étaient Petit Bonhomme et Bob. Le chien était Burke. Les incitations de Gwip avaient porté leurs fruits. Avant d'avoir rencontré le premier chauffeur du Vulcan à Queenstown, Petit Bonhomme rêvait de quitter Cork pour aller tenter fortune à Dublin. Après la rencontre, il se décida à faire de son rêve une réalité. Et ne vous imaginez point qu'il n'eût réfléchi aux conséquences de cette grave détermination. C'était abandonner le certain pour l'incertain. Pourquoi se le dissimuler? Mais à Cork, sa situation ne pouvait guère s'accroître. À Dublin, au contraire, un plus vaste champ s'ouvrait à son activité. Bob, appelé à donner son avis, se déclara prêt à partir au premier jour. Et un avis de Bob méritait d'être pris en considération. Il suit de là que notre héros alla retirer ses économies de chez l'éditeur, lequel ne laissa pas de lui faire quelques observations sur ses futurs projets. Il n'obtint rien de cet enfant, si supérieur à son âge et qui n'avait pas l'habitude de se payer de chimères, disposition d'esprit trop commune aux Paddies de tous les temps. Non, Petit Bonhomme était fermement résolu à suivre les chemins qui montent. C'est le seul moyen d'arriver haut, et son précoce instinct lui disait que de quitter Cork pour Dublin, c'était s'élever sur la route de l'avenir. Et maintenant, quelle voie prendrait Petit Bonhomme et quel moyen de transport? La voie la plus courte, c'est celle que suit le railway jusqu'à Limerick et de Limerick à travers la province de Leinster jusqu'à Dublin. Le moyen de transport le plus rapide, c'est de prendre le train à Cork et d'en descendre dès qu'il s'arrête dans la capitale de l'Irlande. Mais ce mode de locomotion avait l'inconvénient de ne pouvoir s'effectuer qu'en dépensant une guinée par personne. Et Petit Bonhomme tenait à ses guinées. Quand on a des jambes, et de bonnes jambes, pourquoi se faire brouetter en wagon? De la question de temps, il n'y avait point à s'inquiéter. On arriverait quand on arriverait. On était dans la belle saison, et les chemins du comté ne sont point mauvais de mai à septembre. Et quel avantage, quelle entrée de jeu, au lieu de coûter gros, le voyage rapporterait au contraire. Telle avait été la préoccupation de notre jeune négociant. Gagner de l'argent au lieu d'en perdre en frais de route. Continuer de village à village, de bourgade à bourgade, le trafic qui lui avait réussi à Cork, vendre des journaux, des brochures, des articles de librairie et de papeterie, en un mot, faire le commerce en se dirigeant vers Dublin. Et pour exercer ce commerce, que fallait-il? Rien qu'une charrette, dans laquelle serait déposée la pacotille du marchand forain, et qu'une toile cirée permettrait d'abriter contre la poussière ou la pluie. Cette charrette, attelée de Burke, qui ne refuserait pas de tirer en avant, les deux enfants la pousseraient par derrière. On parcourrait la voie du littoral, parce qu'elle dessert des villes d'une certaine importance, Waterford, Wexford, Wicklow, et aussi diverses stations balnéaires très suivies à cette époque de l'année. Sans doute, il y aurait près de 200 milles à enlever dans ces conditions. Eh bien, dût-on y employer 2 mois, 3 mois, peu importait, si la boutique ambulante réalisait des gains en marchant tout but. Voilà pourquoi, à cette date du 18 avril, un mois après avoir rencontré Gwip à Queenstown, Petit Bonhomme, Bob et Burke, l'un traînant, les autres poussant, cheminaient sur la route de Cork à Youghal, où ils arrivèrent dans la matinée, sans être trop fatigués de leur étape. Ils n'avaient point à se plaindre, et, en tous les cas, ce n'est pas Burke qui eût songé à grommeler. D'ailleurs, on ne le surmenait pas, et en montant les côtes, les enfants se donnaient autant de mal que lui. Très légère, cette charrette à 2 roues. Une véritable occasion dont Petit Bonhomme avait profité chez un marchand de Cork. Quant à la pacotille, elle consistait en journaux achetés aux gares, brochures politiques, quelques-unes assez lourdes d'idées et de style cependant. Papier à lettres, crayons, plumes et autres ustensiles de bureau. Paquets de tabac, dont la provision serait renouvelée chez les meilleurs débitants à l'enseigne du montagnard écossais peinture lurée. Enfin, divers autres articles et bibelots. Tout cela ne pesait guère, et tout cela se vendait couramment, avec un joli bénéfice. Que voulez-vous ? Les gens de village s'intéressaient à ces deux enfants, l'un sérieux comme un négociant de vieilles roches, l'autre d'une physionomie si souriante qu'on aurait eu honte de le marchander. La charrette arriva à Yukol, une bourgade de 6000 habitants, doublée d'un port de cabotage au fond de l'estuaire de la Blackwater. Voilà un pays où la sainte pomme de terre est en honneur. Et Paddy pourrait-il jamais oublier que c'est aux environs de Yukol que Sir Walter Raleigh fit le premier essai de ses tubercules, actuellement le véritable pain de l'Irlande. Petit bonhomme passa le reste de la journée à Yukol. Il ne consentit à prendre du repos qu'après avoir entièrement réassorti son étalage, lequel serait vite épuisé sur la route de Dungarvan. Un dîner substantiel à la table d'une auberge, un lit pour Bob et pour lui, une niche mise à la disposition du chien, ils trouvèrent cela à bon compte. On se dirigea le lendemain vers le hameau le plus rapproché, en s'arrêtant aux fermes, et il s'en comptait de 2 à 3 par mille. C'est même à ces fermes que stationnait le plus souvent la charrette, lorsque le soir approchait, car mieux valait ne pas se risquer nuitamment sur les routes. Oui, c'était préférable, parce que Birk fut chien à défendre son maître et son étalage à deux roues. Et lorsque petit bonhomme se rappelait ce qu'il avait autrefois souffert sur les chemins du Connaught, quel changement depuis cette époque, et quelle différence entre cette charrette et celle du brutal Turnpipe, cette boîte obscure où il étouffait à demi. Ces choses ne se ressemblaient pas plus que Birk ne ressemblait au chien hargneux du montreur de marionnettes. Notre héros ne faisait pas valser la famille royale et la cour d'Angleterre en tournant la mécanique. Il ne vivait point du produit de l'aumône, mais des bénéfices quotidiennement réalisés. Et puis, quelle confiance en l'avenir! Et quel espoir il avait de réussir à Dublin, autant et même mieux qu'il avait réussi à Cork. Au sortir de Yukol, il y eut un pont à traverser afin de rejoindre la route de Dungarvan. « Voilà un pont !» s'écria Bob. « Je n'en ai jamais vu de cette longueur !»« Moi non plus !» répondit petit bonhomme. En effet, un pont de 270 toises jeté sur la baie de la Blackwater et faute duquel on s'allongerait d'une bonne journée de marche. La charrette roula donc sur le tablier de bois, balayé par une fraîche brise de l'ouest. « C'est comme si on était sur un bateau !» fit remarquer ce fin observateur de Bob. « Oui, Bob, un bateau avec vent arrière. Sens-tu comme le vent nous pousse ?» Le pont traversé sans dommage, il n'y eut plus qu'à s'engager dans le comté de Waterford, qui confine au comté de Kilkenny, dans la province de Leinster. Petit bonhomme et Bob ne se fatiguèrent pas outre mesure, ils allaient sans se presser. Pourquoi se seraient-ils hâtés ? L'essentiel, c'était de vendre et de vendre fructueusement les articles achetés à Yukol, avant d'avoir atteint Dungarvan, où l'on se réassortirait de nouveau. Il va de soi qu'en 2 ou 3 jours, la charrette aurait pu se transporter de Yukol à Dungarvan. 25 à 30 milles, en tenant compte des crochets, ce n'eût été qu'une promenade de quelques jours. Mais s'il n'existait que de rares villages à l'approche des côtes, on y rencontrait de nombreuses fermes, et cette circonstance offrait des chances de débit qu'il convenait de ne point négliger. Le railway ne dessert pas cette ceinture littorale, et les paysans s'y approvisionnent difficilement des choses usuelles. Aussi, petit bonhomme était-il décidé à faire son métier de forain en conscience. Cela réussit. La boutique reçut partout bon accueil. Chaque soir, après s'être installé pour la nuit, Bob comptait les shillings, les pence récoltés depuis le matin, et Petit Bonhomme les inscrivait sur son livre de caisse, à la colonne des recettes, en regard de la colonne des dépenses, où figuraient celles qui leur étaient personnelles, nourriture, coucher, etc. Rien ne plaisait à Bob comme d'aligner cette monnaie. Rien ne plaisait à Petit Bonhomme comme d'additionner son avoir. Rien ne plaisait à Burke comme d'être couché près d'eux, pendant qu'ils réglaient leurs affaires en attendant l'heure de se livrer au sommeil. Ce fut le 3 mai que la charrette atteignit la bourgade de Dungarvan. Elle était vide. Pas la bourgade, la charrette. Et le réassortiment dut être refait en entier. Cela fut facile, car avec ses 6500 âmes, Dungarvan ne laisse pas d'avoir une certaine importance. C'est un port de cabotage, ouvert sur la baie de ce nom, dont les rives sont reliées par une chaussée longue de 150 toises. Même avantage qu'à Youghal, on peut traverser la baie sans être obligé de la contourner. Petit Bonhomme demeura 2 jours à Dungarvan. Il eut une excellente idée, celle d'acheter à des caboteurs quelques articles de lainage à très bas prix, lesquels, à son avis, seraient d'un débit courant dans la campagne. Ce n'était ni lourd ni encombrant, et Burke ne souffrirait pas de la surcharge. Ainsi se continua ce profitable voyage. Que la chance ne l'abandonne pas, et Petit Bonhomme sera devenu un capitaliste lorsqu'il arrivera dans la capitale. D'ailleurs, si la tournée foraine s'accomplissait sans incident digne d'être relaté, elle était exempte d'accidents, ce dont il fallait se féliciter. Temps assez propice toujours. Nulle aventure de grande route. Qui eût voulu maltraiter ses enfants? Et puis, on ne rencontre guère de mauvaises gens le long de ces côtes du Sud-Irlande. Cette population n'a point de ces instincts qui poussent à des actes coupables. En outre, elle n'est pas si pauvre qu'en main comptée, tels ceux du Connaught ou de l'Ulster. La mer lui est lucrative. La pêche, le cabotage, y nourrissent largement le pêcheur ou le matelot, et le cultivateur se ressent de leur voisinage. C'est dans ces conditions favorables que la charrette dépassa Tramore, à 17 milles de Dungarvan, et atteignit 2 semaines plus tard Waterford, à 17 milles de Tramore, sur la limite même du Munster. Petit Bonhomme allait enfin quitter cette province où il avait éprouvé tant de vicissitudes. Son existence à Limerick, à la ferme de Kerwan, au château de Tweedingar, son voyage au lac de Killarney, son début commercial à Cork. D'ailleurs, les tristes jours, il les avait oubliés déjà. Il ne se souvenait que des 3 années au milieu de la famille des McCarthy. Et celles-là, il les regrettait, comme on regrette les joies du foyer domestique. « Bob, dit-il, est-ce que je ne t'ai pas promis que l'on se reposerait à Waterford ?»«
Je le crois, répliqua Bob, mais je ne suis pas fatigué, et si tu veux continuer... »«
Non, restons quelques jours ici. »«
À rien faire alors ?»
Il y a toujours à faire, Bob. Et en effet, n'est-ce rien que de visiter une agréable ville de 25 000 habitants, située sur la rivière de Suir, que franchit un beau pont de 39 arches? Ajoutons que Waterford est un port très fréquenté, ce qui intéressait toujours notre jeune négociant. Le port le plus considérable du Munster oriental, qui possède un service régulier de navigation pour Liverpool, Bristol et Dublin. Tous deux, ayant fait choix d'une auberge convenable où fut remisée leur charrette, se rendirent sur les quais, et ils s'y promenèrent quelques heures. Ces navires qui arrivaient, ces navires qui partaient, comment aurait-on pu s'ennuyer un instant?
« Hein ?» dit Bob. « Si Gwip allait nous tomber tout d'un coup ?»«
Non, Bob !» répondit Petit Bonhomme. « Le volcan ne relâche pas à Waterford, et j'ai calculé qu'il doit être loin maintenant, du côté de l'Amérique.
Là-bas »«
Là-bas ? » fit Bob en étendant le bras vers l'horizon circonscrit par le ciel et l'eau.
« Oui, à peu près.
Et j'ai lieu de croire qu'il sera de retour, lorsque nous serons à Dublin. »
Quel plaisir de retrouver Gwip ! S'écria Bob. Est-ce qu'il sera encore tout noir ?
C'est probable.
Oh, ça n'empêche pas de l'aimer.
Tu as raison, Bob, car il m'a bien aimé, lui, quand j'étais si malheureux.
Oui, comme tu as fait pour moi,
répondit l'enfant dont les yeux brillaient de reconnaissance.
Si petit bonhomme avait eu plus de hâte d'atteindre Dublin, il lui aurait suffi de prendre passage sur le paquebot affecté au service des voyageurs entre Waterford et la capitale. Ces traversées s'exécutent à très bas prix. Toute la pacotille étant vendue, la charrette eût été mise à bord, les deux jeunes garçons et le chien se seraient embarqués, en payant quelques shillings seulement pour des places à l'avant, et en une douzaine d'heures, ils eussent été rendus à destination. Et quel plaisir de naviguer sur le canal de Saint-Georges, à la surface de cette admirable mer d'Irlande, presque en vue des côtes qui sont si variées d'aspect. Une vraie traversée sur un vrai paquebot.
Chose tentante, à coup sûr.
Mais petit bonhomme s'était pris à réfléchir, comme il n'y manquait jamais. Or, il lui paraissait plus avantageux de n'arriver à Dublin qu'après le retour de Gwip. Gwip connaissait la ville. Il piloterait les deux enfants au milieu de cette vaste cité, dont leur imagination faisait quelque chose d'énorme et où ils ne risqueraient pas de se perdre. Et puis, pourquoi interrompre un voyage si fructueusement commencé? L'esprit de suite qui caractérisait petit bonhomme l'emporta sur le plaisir qu'offrait cette attrayante traversée maritime. Après avoir ramené Bob, non sans quelque peine, à une plus saine appréciation des circonstances, il fut décidé que le voyage continuerait dans les mêmes conditions, en remontant jusqu'à Dublin, le littoral du Leinster. Donc, qu'on ne s'étonne pas, si à 3 jours de là, on les retrouve dans le comté de Wexford, la charrette amplement garnie, traînée par le vigoureux Burke avec un infatigable entrain. Un baudet n'aurait pas fait mieux, ni même un cheval. Il est vrai, pour la montée des côtes, Bob s'attelait au brancard, tandis que petit bonhomme donnait un fort coup d'épaule par derrière. Au fond de la baie de Waterford, la route abandonne le littoral si capricieusement festonné d'anses et de criques. La charrette dut perdre de vue cette partie de la mer où se dessine le cap Carnsore, la pointe la plus avancée de la Verte Erin sur le canal de Saint-Georges. Il n'y eut pas lieu de le regretter. Loin de desservir un pays sauvage et désert, cette route traversait des villages, des hameaux, reliait des fermes l'une à l'autre, et les divers articles de la boutique roulante s'y débitèrent à deux hauts prix. Aussi, petit bonhomme n'arriva-t-il pas à Wexford avant le 27 mai, bien que la distance en droite ligne depuis Waterford ne soit que d'une trentaine de milles. Mais que de détours, que de crochets à droite, à gauche, auxquels la charrette avait été contrainte. Wexford est plus qu'une bourgade. C'est une ville de 12 à 13 000 habitants, située près de la rivière Slaney, presque à son embouchure. On dirait d'une petite cité anglaise qui aurait été transportée au milieu d'un comté d'Irlande. Cela tient à ce que Wexford fut la première place d'armes que les Anglais possédèrent sur ce territoire. Et en devenant cité, cette place d'armes a conservé sa physionomie d'origine. Peut-être petit bonhomme éprouvera-t-il un certain étonnement à voir tant de ruines accumulées, des remparts à demi détruits, des courtines réduites à l'état de brèche. C'est qu'il ignorait l'histoire de cette contrée au temps de George III, pendant les cruelles luttes des protestants et des catholiques, les épouvantables massacres qui s'accomplirent de part et d'autre, les incendies et les destructions qui les accompagnaient. Et peut-être valait-il mieux qu'il l'ignorât, car ce sont là de ces terribles souvenirs qui ensanglantent trop de pages du passé de l'Irlande. Il l'apprendrait toujours assez tôt, s'il en avait un jour le loisir. En quittant Wexford, la charrette, soigneusement regarnie, dut encore s'éloigner de la côte qu'elle retrouverait à 15 milles de là, aux approches du port d'Arklow. Et il n'y eut pas à s'en plaindre, et cela pour deux raisons. La première,
c'est que la population est plus dense en cette partie du comté, les villages assez voisins, les fermes assez rapprochées, grâce au railway, qui, par Arklow et Wicklow, met Wexford en communication avec Dublin. La seconde, c'est que le pays est charmant. Le chemin s'engage au milieu de forêts épaisses, de puissants groupes de chênes et de hêtres, entre lesquels se dresse le chêne noir, si remarquable en terre gaélique. La campagne est largement arrosée par la Slaney, l'Ovoca et leurs tributaires, comme elle l'avait été, hélas, de tant de sang à l'époque des dissensions religieuses. Et pensez que c'est ce coin du sol irlandais, riche en minerais de soufre et de cuivre, vivifié par les cours d'eau descendus des montagnes voisines, charriant des parcelles d'or, c'est ce coin dont le fanatisme a fait le théâtre de ses abominables excès. On en retrouve les traces à Enniscorthy, à Ferns, en bien d'autres localités, et jusqu'à Axclow, où les soldats du roi George, l'an 1798, bâtirent 30 000 rebelles. Ainsi appelait-on ceux qui défendaient leur patrie et leur foi. Une journée de repos. Ce fut ce que petit bonhomme, ayant fait halte au port d'Arklow, crut devoir octroyer à son personnel. Mot qui est justifié si l'on veut bien considérer Burke comme une personne. Arklow, avec ses 5 600 habitants, forme une station de pêche où règne une grande animation. Le port est séparé de la haute mer par de larges bancs de sable. Au pied des roches, tapissées de goémons verdâtres, on récolte des huîtres en quantité considérable, et elles n'y coûtent pas cher. « Je suis sûr que tu n'as jamais mangé d'huîtres !» demanda petit bonhomme à ce gourmand de Bob. « Jamais. Veux-tu en goûter ?»« Je veux bien. » Il voulait toujours bien, Bob. Mais il ne fit qu'essayer, et n'alla pas au-delà de la première huître. « J'aime mieux le homard, » dit-il. « C'est que tu es encore trop jeune, Bob. » Et Bob répliqua qu'il ne demandait pas mieux que d'atteindre l'âge de raison auquel on peut apprécier ces mollusques à leur juste mérite. Le 19 juin, dans la matinée, tous deux achevaient leur étape à Wicklow, le chef-lieu du comté de ce nom, qui confine à celui de Dublin. Quelle admirable contrée ils venaient de traverser, l'une des plus curieuses de l'Irlande, presque aussi fréquentée des touristes que la région des lacs de Killarney. Quel ensemble pittoresque et varié pour le plaisir des yeux! Ça et là, des montagnes qui rivalisent avec les plus belles du Donegal ou du Kerry, des lacs naturels, ceux de Bouet et de Dan, dont les eaux limpides reflètent les antiquités éparses sur leurs rives. Puis, au confluent du cours de l'Ovoca, cette vallée de Glendalough, ses tours enlacées de lierre, ses anciennes chapelles bâties au bord d'un lac bordé de moraines étincelantes, et le vallon enrichi par les 7 églises de Saint-Kévin, où affluent les pèlerins de tous les reins. Et la tournée commerciale? Eh bien, cela allait de mieux en mieux. Toujours même accueil aux jeunes forains. Ah, qu'ils étaient loin des comtés pauvres du Nord-Ouest, dans cette portion relativement riche de l'Irlande. Elle se ressentait du voisinage de la grande capitale. Et en effet, à partir d'Arklow, la route côtière dessert nombre de stations de bains de mer, déjà fréquentées par les familles de la gentry dublinoise. Tout ce monde élégant avait de l'argent en poche. Il circulait en ces stations plus de guinées qu'il ne circule de shillings dans les bourgades du Sligo ou du Donegal. Le talent consistait à les attirer dans la caisse de notre jeune négociant. Or, c'est ce qui s'accomplissait peu à peu. Et, pour sûr, petit bonhomme aurait doublé sa fortune avant d'arriver au terme du voyage. Et puis, Bob avait eu une idée. Oui, une idée. Très ingénieuse. Une idée qui n'était pas venue à son grand frère et qui lui était venue à lui. Une idée qui devait produire 100% de bénéfices en l'exploitant dans ce monde d'enfants riches, hôtes habituels des grèves du Wicklow. Une idée géniale, enfin. Bob, il l'avait déjà prouvé en maintes occasions, était habile à dénicher les oiseaux et les nids abondent aux arbres sur les routes d'Irlande. Jusqu'alors, Bob n'avait tiré aucun profit de ses talents de grimpeur. Un vrai singe. Une ou deux fois seulement, soit en cueillant un nid au sommet d'un hêtre, soit en attrapant des oiseaux au piège, simple planchette supportée par trois morceaux de bois disposés en forme de quatre, il avait gagné quelques monnaies à vendre ses captifs. Mais avant de quitter Wicklow, l'idée en question avait poussé dans sa cervelle. Et de là, cette demande d'acheter une cage assez grande pour contenir une trentaine de moineaux, mésanges, chardonnerets, pinsons ou autres de moyenne taille. « Et pourquoi ?» répondit Petit Bonhomme. « Est-ce que tu vas te mettre à élever des oiseaux ?»«
Point !»«
Mais qu'en veux-tu faire ?»«
Leur donner la volée. »«
À quoi bon les mettre en cage alors ?» Vous l'avouerez, Petit Bonhomme ne pouvait rien comprendre à cette proposition. Il comprit dès que Bob lui eut expliqué la chose. Oui, Bob se proposait de donner la volée à ses oiseaux, moyennant finance, s'entend. Avec sa cage toute gazouillante, il irait parmi ses enfants non moins gazouillants des plages de bains de mer. Et quel est celui d'entre eux qui se refuserait à racheter de quelques pence la liberté des gentils prisonniers de Bob? C'est si charmant de voir un oiseau s'envoler quand on a payé sa rançon. Cela est si doux au cœur d'un petit garçon, et surtout d'une petite fille. Bob ne doutait pas du succès de son idée. Et, ma foi, Petit Bonhomme en saisit le côté très pratique. Rien ne coûtait d'essayer, d'ailleurs. La cage fut donc achetée, et Bob n'avait pas fait un mille au-delà de Wicklow qu'elle était pleine d'oiseaux, impatients de reprendre leur vol. Cela réussit à souhait dans nombre de ces stations où affluaient les familles en déplacement balnéaire. Là, tandis que Petit Bonhomme s'occupait à débiter les articles de son étalage, Bob, sa cage à la main, allait solliciter la pitié des jeunes gentlemen et des jeunes miss pour ses jolis prisonniers. L'envolée se faisait au milieu des battements de main, la cage se vidait, et les pinces de pleuvoir dans la poche du malin garçonnet. Quelle bonne idée il avait eue, et avec quelle satisfaction il comptait chaque soir sa recette avant de la joindre à la recette courante. C'est ainsi que l'un et l'autre, en remontant la côte vers Dublin, se trouvèrent à Bray, l'après-midi du 9 juillet. Bray, que 14 à 15 milles séparent de Dublin, est couché au pied d'un promontoire détaché du système des Wicklow Mounts, dominé par le Lugnaquilla, haut de 3000 pieds. Grâce à cet encadrement magnifique, la bourgade semble plus délicieuse encore que le Brighton de la côte anglaise. C'est du moins l'opinion de Mademoiselle de Beauvais, qui fait preuve, en décrivant les beautés de l'île verte, d'un sens très fin et très artiste. Que l'on se figure une agglomération d'hôtels, de villas toutes blanches, de cottages fantaisistes, où les habitants et les étrangers, venus pendant la saison, se comptent par 5 et 6 000. On peut dire que les maisons bordent la route jusqu'à Dublin sans discontinuité. Bray est rattaché à la capitale par un railway, dont le remblai disparaît parfois sous les embruns de la houle, qui pénètre furieusement à travers cette étroite baie de Killinney, que ferme au sud un superbe promontoire. Des ruines, elles s'entassent aux approches de Bray. Et quelle ville de l'île Émeraude en est dépourvue ? Ici, ce sont les restes d'une vieille abbaye de Saint-Bénédicte, puis un groupe de ces tours appelées Martello, qui servaient à défendre la côte au XVIIIe siècle, sans parler des batteries qui la protègent au XIXe. Il paraît que, si l'on gravit les pentes du cap, une bonne lunette vous permet d'apercevoir les contours des montagnes du pays de Galles, au-delà de la mer d'Irlande. Se dire, Petit Bonhomme ne put le vérifier. D'abord parce qu'il ne possédait pas de lunettes, ensuite parce qu'il dut quitter Bray plus hâtivement qu'il n'y comptait. Le monde des enfants est considérable sur ces plages sablonneuses, largement caressées par le ressac, et le long du môle de Bray, la parade comme on l'appelle. Là se réunissent ces petits riches, joufflus et rosés, pour lesquels la vie n'a été qu'un enchantement depuis leur naissance. Des garçonnets en rupture d'école, des fillettes qui s'ébattent sous les yeux des mères et des gouvernantes. Mais on ne serait pas en Irlande si, même à Bray, la misère traditionnelle n'était représentée par une bande respectable de déguenillés, dont le temps se passe à fouiller les varechs de la plage. Les trois premiers jours furent très fructueux, au point de vue commercial, dans cette bourgade. La marchandise de la charrette s'enleva. Du reste, l'étalage avait été composé de manière à plaire aux enfants, offrant surtout de ces jouets très simples qui donnaient gros bénéfices. Les oiseaux de Bob réussirent au-delà de toute probabilité. Dès 4 heures du matin, il s'occupait de tendre ses pièges et remplissait sa cage, que la clientèle enfantine s'empressait à vider dans l'après-midi. Toutefois, il ne fallait pas s'attarder à Bray. Le but, c'était Dublin. Et quelle joie si le Vulcain s'y trouvait, mouillé au milieu du port, et Grip à son poste. Grip, dont on n'avait plus de nouvelles depuis 2 grands mois. Donc, petit bonhomme songeait à partir le lendemain, mais il ne pouvait guère prévoir la circonstance inattendue qui allait précipiter son départ. On était au 13 juillet. Vers 8 heures du matin, après avoir relevé ses pièges, Bob revenait vers le port, sa cage pleine d'oiseaux, ce qui lui assurait une fort jolie recette pour cette dernière journée. Il n'y avait encore personne, ni sur la grève, ni sur la parade. Au moment où il tournait l'accotement du môle, Bob fit la rencontre de 3 jeunes garçons de 12 à 14 ans. Des gentlemen de joyeuse humeur, tenues très élégantes, chapeaux de marin rejetés sur l'occiput, vareuses de fine laine écarlate à boutons d'or, estampées de l'encre réglementaire. Bob eut d'abord la pensée de saisir cette occasion d'écouler sa marchandise volante, qu'il aurait le temps de renouveler avant l'heure du bain. Cependant, les susdits gentlemen, avec leur air gouailleur, leur manière peu engageante, lui inspirèrent quelque hésitation. Ce n'étaient pas là de ces enfants, garçons ou fillettes, qui faisaient d'ordinaire bon accueil à ses captifs. Ce trio semblait plutôt disposé à se moquer de lui et de son commerce, et il lui parut plus sage de passer outre. Ce n'était point l'affaire de ces jeunes garçons, et le plus âgé, un petit monsieur, dont le regard dénotait beaucoup de méchanceté naturelle, coupa le chemin à Bob et lui demanda d'un ton brusque où il allait. « Je retourne à la maison, » répondit l'enfant avec politesse. « Et cette cage, elle est à moi. Et ces oiseaux, je les ai pris au piège ce matin. Hey, »« Hé, c'est ce gamin qui court la plage !» s'écria l'un des 3 gentlemen. « Je l'ai déjà vu, je le reconnais. Pour 2 ou 3 pence, il met un de ces oiseaux en liberté. » Et cette fois, reprit le plus grand, ce sera pour rien qu'ils auront tous la volée. Tous. Cela dit, il arracha la cage des mains de Bob. Il l'ouvrit et la jante emplumée de s'enfuir à tire-d'aile. C'était là un acte très dommageable pour Bob. Aussi le garçonnet poussa-t-il des cris, répétant « Mes oiseaux! Mes oiseaux !» et les jeunes messieurs de s'abandonner à un rire non moins immodéré qu'imbécile. Puis, enchantés de leurs plaisantes et mauvaises actions, ils se disposaient à regagner la parade lorsqu'ils s'entendirent interpeller de la sorte. « C'est mal ce que vous avez fait là, messieurs. » Et qui parlait ainsi ? Petit bonhomme, lequel venait d'arriver accompagné de Burke. Il avait vu ce qui s'était passé, et il reprit d'une voix énergique « Oui, c'est très mal ce que vous avez fait là. » Et alors, ayant dévisagé le plus grand de ces 3 jeunes gentlemen, il ajouta « Après tout, cette méchanceté ne m'étonne pas de la part du comte Ashton. » C'était en effet l'héritier du marquis et de la marquise. La noble famille des Pipbourne avait quitté Twillingor Castle pour cette station de bain de mer, et elle occupait depuis la veille l'une des plus confortables villas de la bourgade. « Ah, c'est ce coquin de Groom !» répondit avec l'accent du plus profond mépris le comte Ashton.
« Moi-même. »
« Et si je ne me trompe, voilà ce chien qui a causé la mort de mon pointeur. Il est donc ressuscité. Je croyais pourtant lui avoir réglé son compte. »«
Il n'y paraît pas, »
répliqua petit bonhomme, qui ne se démontait pas devant l'aplomb de son ancien maître.
« Eh bien, puisque je te rencontre, méchant boy, je vais te payer ce que je te dois, »
s'écria le comte Ashton, qui s'avança vivement la canne levée.
« C'est vous, au contraire, qui allez payer à Bob le prix de ses oiseaux, monsieur Piborn. »«
Non, toi d'abord, comme ceci. »
Et d'un coup de sa canne, le jeune gentleman cingla la poitrine de petit bonhomme. Celui-ci, quoiqu'il fût moins âgé que son adversaire, l'égalait en vigueur et le dépassait en courage. Il bondit, il s'élança sur le comte Ashton, il lui arracha sa canne, il le gratifia de deux maîtresses gifles à pleine main. Le descendant des Pipborn voulut riposter. Il n'était pas de force. En un instant, il fut jeté à terre et maintenu sous le genou du petit bonhomme. Ses deux camarades voulurent intervenir et le dégager. Mais Burke eut la même idée, car se redressant, la gueule ouverte, les crocs menaçant, il allait leur faire un mauvais parti, si son maître qui s'était redressé ne l'avait retenu. Puis, celui-ci s'adressant à Bob, « Viens. » dit-il. Et sans s'inquiéter du comte Ashton et des deux autres, qui ne se souciaient pas d'entrer en lutte avec Burke, petit bonhomme et Bob revinrent vers leur auberge. À la suite d'une scène aussi désagréable pour l'amour-propre du jeune Piborn, le mieux était de quitter Bray au plus vite. Ce serait toujours une fâcheuse affaire si le battu portait plainte, quoiqu'il eût été l'agresseur. Peut-être, avec une meilleure appréciation de la nature humaine, petit bonhomme aurait-il dû réfléchir à ceci. C'est que ce sot et vaniteux garçon se garderait bien d'ébruiter une aventure dont il n'aurait eu qu'à rougir. Mais, n'étant point rassuré à cet égard, il régla sa dépense, il attela Burke à la charrette, vide alors de marchandises, et avant 8 heures du matin, Bob et lui avaient quitté Bray. Le soir même, très tard, nos deux voyageurs arrivèrent à Dublin, après un parcours de 250 miles environ, accompli en un laps de 3 mois depuis leur départ de Cork. Chapitre 10. À Dublin.
Dublin. Petit bonhomme est à Dublin. Regardez-le. C'est l'acteur qui aborde les grands rôles et passe d'un théâtre de bourgade au théâtre d'une grande cité. Dublin, ce n'est plus un modeste chef-lieu de comté. Ce n'est pas Limerick avec ses 45 000 habitants, ni Cork avec ses 86 000. C'est une capitale, la capitale de l'Irlande, qui possède une population de 320 000 âmes. Administrée par un Lord Maire, gouverneur à la fois militaire et civil, qui est le second fonctionnaire de l'île, assisté de 24 aldermen, de 2 shérifs et de 144 conseillers. Dublin compte parmi les villes importantes des îles britanniques. Commerçante avec ses docks, industrielle avec ses fabriques, savante avec son université et ses académies, pourquoi faut-il que les workhouses soient encore insuffisants pour ses pauvres et les wagged schools pour ses déguenillés? N'ayant pas l'intention de réclamer l'assistance ni des Wagged School ni des Workhouse, il ne restait à petit bonhomme qu'à devenir un savant, un commerçant, un industriel, en attendant que l'avenir en eût fait un rentier. Rien de plus simple, on le voit. En cet instant, notre héros eut-il le regret d'avoir quitté Cork? Lui parut-il téméraire d'avoir suivi les conseils de Gwip? Conseils en parfaite concordance d'ailleurs avec ses propres instincts. Le pressentiment lui vint-il que la lutte pour l'existence serait autrement laborieuse au milieu de cette foule de combattants? Non, il était parti confiant et sa confiance n'avait point faibli en route. Le comté de Dublin appartient à la province de Leinster. Montagneux au sud, plat et ondulé vers le nord, il est plus spécialement productif de lin et d'avoine.
Là n'est point sa richesse, cependant. C'est à la mer qu'il la demande, c'est au commerce maritime, lequel se chiffre par un mouvement annuel de 3,5 millions de tonnes et de 12 000 navires, ce qui assigne à la capitale de l'Irlande le 7e rang parmi les ports du Royaume-Uni. La baie de Dublin, au fond de laquelle s'élève cette cité dont le périmètre est de 11 000, peut soutenir la comparaison avec les plus belles de l'Europe. Elle s'étend du port méridional de Kingstown au port septentrional de Howth. Celui de Dublin est formé par l'estuaire de la Liffey. Deux walls, prolongés en mer pour contenir l'ensablement, ont détruit la barre qui en rendait l'accès difficile et permettent au bâtiment tirant 20 pieds de remonter la rivière jusqu'au premier pont, Carlisle Bridge. C'est par mer, un jour de beau soleil, alors que le rideau des brumes a largement dégagé l'horizon, qu'il convient d'arriver dans cette capitale, si l'on veut embrasser d'un coup d'œil son magnifique ensemble. Bob et petit bonhomme n'avaient pas eu cette bonne fortune. La nuit était sombre, l'atmosphère épaisse, lorsqu'ils atteignirent les premières maisons d'un faubourg, après avoir suivi la route le long du railway qui met Kingstown à 20 minutes de Dublin. Peu enchanteur, peu réconfortant, cet aspect que présentaient les bas quartiers de la ville, au milieu de la brume, trouée de quelques becs de gaz. La charrette, traînée par Burke, avait suivi des rues étroites et enchevêtrées. Ça et là, maisons sordides, boutiques fermées, public house ouvert. Partout la tourbe des misérables sans domicile, fourmillement des familles au fond des taudis, partout l'abjection de l'ivresse, celle du whisky, la plus épouvantable de toutes, engendrant les querelles, les injures, les violences. Les deux enfants avaient déjà vu cela ailleurs. Ce n'était pas pour les surprendre ni même les inquiéter. Et cependant, qu'ils étaient nombreux, les petits de leur âge, étendus sur les marches des portes, au coin des bornes, en tas comme des ordures, nu-pieds, nu-têtes, à peine couvert de haillons. Petit bonhomme et Bob passèrent devant la masse confuse d'une église, l'une des deux cathédrales protestantes, restaurée grâce aux millions du grand brasseur Lee Guinness et du grand distillateur Howe. De la tour, surmontée d'une flèche octogone, toute palpitante sous l'ébranlement des 8 cloches de son carillon, s'échappaient les tintements de la 9e heure. Bob, très fatigué par cette longue et rapide étape depuis Bouet, avait pris place dans la charrette. Petit bonhomme poussait afin de soulager Burke. Il cherchait une auberge, un garni quelconque pour la nuit, quitte à trouver mieux le lendemain. Sans le savoir, il traversait le quartier qui s'appelle Les Libertés, à l'entrée de sa principale rue, Saint-Patrick, laquelle va de la cathédrale sudite à l'autre cathédrale de Christchurch. Rue large, bordée de maisons, confortables autrefois, maintenant pauvres, accostée de ruelles malsaines, de lanes infectes, où les bouges abondent, d'horribles masures à faire regretter le cabin de la Harde. Ce fut même comme un souvenir effrayant qui impressionna l'esprit du petit bonhomme. Et pourtant, il n'était plus dans un village du Donegal, il était à Dublin, la capitale de l'île Émeraude. Il possédait alors plus de guinées, gagnées par son commerce, que tous ces déguenillés n'avaient de farthing dans leur poche. Aussi chercha-t-il, non point un de ces endroits suspects où la sécurité est douteuse, mais une auberge à peu près décente, où la nourriture et le coucher seraient à des prix abordables. Cela se rencontra, par bonne chance, au milieu de St. Patrick Street, un hôtel de modeste apparence, assez convenablement tenu, où la charrette fut remisée. Après souper, les deux enfants montèrent dans une étroite chambre. Cette nuit-là, tous les carillons des cathédrales, tout le tumulte des libertés n'auraient pu interrompre leur sommeil. Le lendemain, on se leva dès l'aube. Il s'agissait d'opérer une reconnaissance, ainsi que fait un stratégiste du terrain sur lequel il s'apprête à combattre. Aller à la recherche de Gwip, c'était indiqué. Le rencontrer, rien ne serait plus facile si le Vulcain était de retour à Dublin, son port d'attache.
« Nous emmenons Burke ?»
demanda Bob.
« Sans doute, » répondit Petit Bonhomme. « Il faut qu'il apprenne à connaître la ville. »
Et Burke ne se fit point prier.
Dublin décrit un ovale d'un grand diamètre de 3 miles. La Liffey, entrant par l'ouest et sortant par l'est, le divise en deux parties à peu près équivalentes. À son embouchure, cette artère se raccorde avec un double canal faisant ceinture à la cité. Au nord, le Royal Canal, qui longe le Midland Great Western Railway. Au sud, le Grand Canal, dont le tracé, en se prolongeant jusqu'à Galway, met en communication l'océan Atlantique et la mer d'Irlande. Saint Patrick Street compte parmi ses habitants, et ce sont les plus riches, des fripiers, juifs d'origine. C'est chez ce revendeur que s'achètent toutes ces vieilles nippes qui composent l'accoutrement usuel des paddies de la basse classe. Chemises rapiécées, jupes en loque, pantalons faufilés de morceaux hétéroclites, chapeaux d'homme indescriptibles, chapeaux de femme encore ornés de fleurs. Là aussi, on engage les haillons pour quelques pence, dont les ivrognes et les ivrognesses ont bientôt bu le plus clair dans les inns du voisinage où se débitent le whisky et le gin. Ces boutiques attirèrent l'attention de Petit Bonhomme. L'animation des rues était presque nulle à cette heure matinale. On se lève tard à Dublin, où, du reste, l'industrie est médiocre. Peu d'usines, si ce n'est quelques établissements qui travaillent la soie, le lin, la laine, et principalement les popelines, dont la fabrication fut autrefois importée par les Français émigrés après la révocation de l'édit de Nantes. Il est vrai, brasseries et distilleries sont florissantes. Ici s'élève l'importante et renommée distillerie de whisky de M. Rowe. Là s'étend la brasserie de Stout de M. Guinness, d'une valeur de 150 millions de francs, relié par un réseau de conduites souterraines au Dock Victoria, d'où partent 100 navires qui déversent sa bière sur les deux continents. Mais si l'industrie périclite, le commerce, au contraire, tend à s'accroître sans cesse, et Dublin est devenu le premier marché du Royaume-Uni en ce qui concerne l'exportation des porcs et du gros bétail. Petit Bonhomme savait ces choses, pour les avoir apprises dans les statistiques et mercuriales, qu'il lisait tout en colportant journaux et brochures. En gagnant du côté de la Liffey, Bob et lui ne perdaient rien de ce qui s'offrait à leur vue. Bob, très loquace, bavardait suivant son habitude. « Ah, cette église ! Ah, cette place ! Quelle énorme bâtisse ! Quel beau square ! » La bâtisse, c'était la bourse, le Royal Exchange. Au long de Dame Street, c'était le City Hall. C'était le Commercial Building, salle de rendez-vous destinée aux négociants de la ville. Plus loin apparaissait le château, juché sur la croupe de Cork Hill, avec sa grosse tour ronde à créneaux, ses lourdes constructions de briques. Autrefois forteresse restaurée par Élisabeth, dont on retrouverait malaisément les vestiges. Elle sert de résidence au Lord Lieutenant et de siège au gouvernement civil et militaire. Au-delà, se dessinait le square de Stephen, orné de la statue galopante d'un George Ier en bronze, tapissé de vertes pelouses, ombragé de beaux arbres, bordé de maisons aussi tristes que symétriques, dont le palais de l'archevêque protestant et le boardroom sont les plus vastes. Puis, sur la droite, s'étend le square Merion, où s'élève l'ancien manoir de Leinster, l'hôtel de la Société Royale, à façade corinthienne et vestibule dorique, et aussi la maison qui a vu naître O'Connell. Petit Bonhomme, laissant jaser Bob, réfléchissait. Il cherchait à tirer de ce qu'il observait quelque idée pratique. Comment ferait-il fructifier sa petite fortune ? À quel genre de commerce demanderait-il de la doubler, de la tripler ? Sans doute, En allant au hasard, à travers des rues misérables confinant à des quartiers riches, les deux enfants s'égarèrent plus d'une fois. Cela explique pourquoi, une heure après avoir quitté St. Patrick Street, ils n'avaient pas encore atteint les quais de l'Alifée. « Il n'y a donc pas de rivière ?» répétait Bob. « Si, une rivière qui débouche dans le port !» répondait Petit Bonhomme. Et ils continuaient leur reconnaissance, s'allongeant de multiples détours. C'est ainsi qu'au-delà du château, ils débouchèrent devant un vaste ensemble de constructions à 4 étages, en pierre de Portland, possédant une façade grecque longue de 100 mètres, un fronton porté sur 4 colonnes corinthiennes, 2 pavillons d'angle décorés de pilastres et d'attiques. Autour se déroule un véritable parc, où des jeunes gens se livraient déjà aux divers exercices de sport. Était-ce donc un gymnase? Non, c'était l'université qui fut fondée sous Élisabeth, Trinity College de son nom officiel. Ces jeunes gens, c'étaient des étudiants irlandais, enragés sportsmen qui rivalisent d'audace et d'entrain avec leurs camarades de Cambridge et d'Oxford. Cela ne ressemblait guère à la Wagged School de Galway, et le recteur devait être un bien autre personnage que M. O'Bookins. Bob et Petit Bonhomme prirent alors vers la droite, et ils n'avaient pas fait une centaine de pas que le garçonnet s'écriait « Déma ! J'aperçois Déma !»« Donc, Bob, il y a une rivière !» Mais de cette mâture, on ne voyait poindre que l'extrémité au-dessus des maisons d'un quai. De là, nécessité de trouver une rue qui descendit vers la Liffey, et tous deux de courir dans cette direction, précédés de Burke, le nez à terre, la queue remuante, comme s'il eût suivi quelques pistes. Il en résulta qu'ils n'accordèrent qu'un regard distrait à la cathédrale de Christ Church, et il fallait qu'ils se fussent singulièrement égarés, car entre les deux cathédrales, il n'y a que la distance mesurée par St. Patrick Street. Une assez curieuse église, cependant, la plus ancienne de Dublin, datant du XIIe siècle, en forme de croix latine, flanquée d'une tour carrée comme un donjon, surmontée de 4 pinacles à toit pointu. Bah, ils auraient le temps de la visiter plus tard. Bien que Dublin possède 2 cathédrales protestantes et un archevêque anglican, n'allez pas croire que la capitale de l'Irlande appartienne à la religion réformée. Non, les catholiques, sous la direction de leur archevêque, y sont dans la proportion des 2/3 au moins, et il existe des églises où le culte romain est célébré dans toute sa magnificence, telles la Conception, Saint-André, une chapelle métropolitaine de style grec, l'église des Jésuites, sans parler d'une basilique que l'on songe à élever sur un plan monumental au quartier de Thomas Street. Enfin, Petit Bonhomme et Bob atteignirent la rive droite de la Liffey. « Que c'est beau !» dit l'un. « Jamais nous n'avons vu si beau !» répondit l'autre. Et de fait, à Limerick ou à Cork, sur le Shannon ou la Lee, on chercherait en vain cette admirable perspective de quai en granit bordée d'habitations superbes. À droite, ceux d'Usher, d'Alechamp, de Wood, d'Essex. À gauche, ceux d'Ellis, d'Arran, de King's Inn et autres vers l'amont. Ce n'est point en cette partie de la Liffey que viennent s'amarrer les navires. Leur forêt de mâts ne se montrait qu'en aval, dans une profonde entaille de la rive gauche, où la forêt semblait être plus épaisse encore. « Ce sont les docks, sans doute !» dit Petit Bonhomme. « Allons-y !» répondit Bob, dont ce mot « doc » piquait la curiosité. Traverser la Liffey, rien de plus facile. Les 2 quartiers de Dublin sont desservis par 9 ponts, et le dernier, à l'est, Carlisle Bridge, le plus remarquable de tous, met en communication Westmoreland Street et Sackville Street, citées parmi les plus belles rues de la capitale. Les 2 enfants ne prirent point Sackville Street. Cela les eût éloignés des docks, où ce pêle-mêle de bâtiments les attirait. Mais, en premier lieu, ils examinèrent un à un les navires mouillés dans l'Alifée, au-dessous de Carlisle Bridge. Peut-être le Vulcan était-il là, sur ses ancres. Ils l'auraient reconnu entre mille, le steamer de Grip. On n'oublie pas un bâtiment que l'on a visité, surtout lorsque Grip en est le premier chauffeur. Le Vulcan n'était pas au quai de l'Alifée. Il se pouvait qu'il ne fût point de retour. Il se pouvait aussi qu'il eût été s'amarré au milieu des docks, ou même au bassin de Radoub, pour quelque opération de carénage. Petit bonhomme et Bob suivirent le quai en descendant la rive gauche. Peut-être l'un, tout à la pensée du Vulcan, ne vit-il pas le Custom House, la douane, qui est pourtant un vaste édifice quadrangulaire surmonté d'un dôme de 100 pieds que décore la statue de l'Espérance. Quant à l'autre, il s'arrêta un instant à le contempler. Aurait-il jamais des marchandises à lui qui seraient soumises aux visites de cette douane? Est-il rien de plus enviable que d'acquitter des droits pour les cargaisons rapportées des pays lointains? Cette satisfaction lui serait-elle jamais donnée? On arriva au dock Victoria. Dans ce bassin, cœur de la ville commerçante, dont les veines rayonnent sur l'immensité des mers, y en avait-il de ces navires, ceux-ci en chargement, ceux-là en déchargement? Un cri échappa à Bob. « Le Vulcan, là, là !» Il ne se trompait pas. Le Vulcan était à quai, embarquant des marchandises. Quelques instants après, Grip, que nulle occupation ne retenait à bord, rejoignit ses deux amis. « Enfin vous v'là !» répétait-il en les serrant entre ses bras à les étouffer. Tous les trois remontèrent le quai et, désireux de causer plus à l'aise, gagnèrent la berge du Royal Canal à l'endroit où il débouche sur l'Alifée. Cet endroit était presque désert. « Et depuis quand vous êtes à Dublin ?» demanda Grip qui les tenait un sous chaque bras. « Depuis hier soir, » répondit Petit Bonhomme. « Seulement, je vois, mon boy, que t'as mis quelque façon à te décider. »« Non, Grip, et après ton départ, j'avais pris la résolution de quitter Cork. »« Bon, il y a de ça 3 mois déjà, et j'ai eu le temps d'aller 2 fois en Amérique et d'en revenir. » Chaque fois que je me suis retrouvé à Dublin, j'ai couru la ville, espérant te rencontrer. Pas le moindre petit bonhomme, pas l'ombre de cette mousse de Bob, ni de cette honnête bonne bête de Burke. Alors je t'ai écrit. T'as pas reçu ma lettre? Non, Grip, et cela tient à ce que nous devions plus être à Cork quand elle est arrivée. Il y a 2 mois que nous nous sommes mis en route. 2 mois? S'écria Grip. Ah, ça! « Quel train que vous avez donc pris pour venir ?»« Quel train ?» répliqua Bob en regardant le chauffeur d'un œil rayonnant de malice. « Le train de nos jambes !»« Vous avez fait toute la route à pied ?»« À pied et par le grand tour. »« 2 mois de voyage !» s'écria Grip. « Qui ne nous a rien coûté, » dit Bob. « Et qui nous a même rapporté une jolie somme, » ajouta Petit Bonhomme. Il fallut faire à Grip le récit de cette fructueuse expédition. La charrette traînée par Burke, la vente des divers articles dans les villages et dans les fermes, la spéculation des oiseaux, une idée de Bob, s'il vous plaît. Et les prunelles de Monsieur Bob scintillaient comme 2 pointes de braise. Puis ce fut la halte à Bouet, la rencontre de l'héritier des Pyborn, la mauvaise action du jeune comte et ce qui s'ensuivit. « T'as cogné dur, au moins ?» demanda Grip. « Non, mais ce méchant Ashton était plus humilié d'être à terre sous mon genou que si je l'avais frappé. »« C'est égal, j'aurais cogné dessus, moi !» répondit le premier chauffeur du Vulcan. Pendant le narrat de ces intéressantes aventures, le joyeux trio remontait la rive droite du canal. Grip demandait toujours de nouveaux détails. Il ne cachait point son admiration à l'égard du petit bonhomme. Quelle entente il possédait des choses du commerce! Quel génie qui savait acheter et vendre, qui savait compter! À tout le moins aussi bien que Monsieur Hotbodkins. Et lorsque petit bonhomme lui fait connaître l'importance du capital qu'il avait en caisse, soit 150 livres, « Allons, dit-il, Te v'là aussi riche que je le suis, mon boy. Seulement, j'ai mis 6 ans à gagner ce que t'as gagné en 6 mois. Je te répète ce que je t'ai dit à Cork. Tu réussiras dans les affaires. Tu feras fortune.
Où ? Demanda petit bonhomme.
Partout où que t'iras, répondit Gwip avec l'accent de la plus absolue conviction. À Dublin, si t'y restes. Ailleurs, si tu vas ailleurs.
Et moi ? Demanda Bob.
Toi aussi, bambin, à cette condition qu'ils deviennent souvent des idées comme l'idée des oiseaux.
J'en aurais, Gwip.
Et de ne rien faire sans consulter le patron.
Qui, le patron ?
Le petit bonhomme. Est-ce qu'il ne te fait pas l'effet d'en être un, de patron ?
Eh bien, dit celui-ci, causons de tout cela.
Oui, mais après le déjeuner, répondit Gwip. Je suis libre de ma journée. Je connais la ville comme la chaufferie ou les soutes du volcan. Il faut que je te pilote et que nous courions du blé ensemble. Tu verras ce qui sera mieux à entreprendre.
On déjeuna dans un cabaret de marins sur le quai. On fit convenablement les choses, sans renouveler toutefois les magnificences de l'inoubliable festin de Cork. Gwip raconta ses voyages au grand plaisir de Bob. Petit bonhomme écoutait, toujours pensif, supérieur à son âge par le développement de son intelligence, le sérieux de ses idées, l'attention permanente de son esprit. On eût dit qu'il était né à 20 ans et qu'il en avait maintenant 30. Gwip dirigea ses 2 amis vers le centre de la ville en se rapprochant de l'Alifée. Là est le centre opulent. Violent contraste avec les milieux pauvres, car il n'y a point de transition en cette capitale de l'Irlande. La classe moyenne manque à Dublin. Luxe et pauvreté se coudoient et se rudoient. Le quartier du Beau Monde, après avoir enjambé la rivière, se développe jusqu'au Stephen Square. Là habite cette haute bourgeoisie que distingue une éducation aimable, une instruction cultivée, qui par malheur se divise sur les questions de religion et de politique. Une rue splendide, Sackville Street, bordée d'élégantes maisons en façade, avec des magasins somptueux, des appartements à larges fenêtres. Cette large artère est inondée de lumière quand il fait beau, et d'air quand elle s'emplit des âpres brises de l'Est. Si elle s'appelle Sackville Street, officiellement, on la nomme O'Connell Street, patriotiquement. C'est là que la Ligue nationale a fondé son comité central, dont l'enseigne éclate en lettres d'or. Mais dans cette belle rue, que de pauvres en guenilles, couchés sur les trottoirs, accroupis au pas des portes, accoudés aux piédestaux des statues. Tant de misère ne laissa pas d'impressionner petit bonhomme, si accoutumé qu'il y fût. En vérité, ce qui semblait presque acceptable dans le quartier de Saint-Patrick, détonnait à Sackville Street. Une particularité surprenante aussi, c'était le grand nombre d'enfants occupés à la vente des journaux. La Gazette de Dublin, le Dublin Express, la National Press, le Freeman's Journal, les principaux organes catholiques et protestants, et bien d'autres. « Hein ?» fit Grip. « Quel tas de vendeurs dans les rues, aux abords des gares, sur le bord des quais !»« Un métier qui n'est pas à tenter ici, » observa petit bonhomme. « Il a réussi à Cork, et il ne réussirait pas à Dublin. » Rien de plus juste. La concurrence eût été redoutable, et la charrette de Burke, pleine le matin, aurait risqué de l'être encore le soir. On découvrit, en continuant la promenade, d'autres rues magnifiques, de beaux édifices. Le post-office, dont le portique central repose sur des colonnes d'ordre ionique. Et petit bonhomme songeait à l'énorme quantité de lettres qui s'abattent là comme une nuée d'oiseaux ou qui s'envolent sur le monde entier. « C'est pour que t'en uses qu'on t'a bâti, mon boy, » dit Grip. « Est-ce qu'il t'arrivera de lettres à ton adresse ?»« Master, petit bonhomme, négociant à Dublin. » Le jeune garçon ne pouvait s'empêcher de sourire aux manifestations exagérées et enthousiastes de son ancien compagnon de la Wagged School.
Enfin, on aperçut le bâtiment des quatre cours de justice réunis sous le même toit. Sa longue façade de 63 toises, sa coupole percée de 12 fenêtres, que le soleil daignait illuminer ce jour-là de quelques rayons. « Par exemple, » fit observer Quip, « je compte que t'aurais jamais de rapport avec cette bâtisse-là. »«
Et pourquoi ?»«
Parce que c'est une chaufferie comme celle du volcan. Seulement, ce n'est pas du charbon qu'on y consomme. Ce sont des clients qu'on y brûle à petit feu. » Et que les sollicitors, les attornés, les proctors et autres marchands de loi enfournent.
On ne fait pas d'affaires sans risquer d'avoir des procès, Grip.
Enfin, tâche d'en avoir le moins possible. Ça vous coûte cher quand on gagne, et ça vous ruine quand on perd.
Et Grip secouait la tête d'un air très entendu. Mais comme il changea de ton, lorsque tous trois furent en train d'admirer un édifice circulaire dont le dessin architectural reproduisait les splendeurs de l'ordre dorique.
« La Banque d'Irlande » s'écria-t-il en saluant. « V'là, mon boy, où je te souhaite d'entrer 20 fois par jour. Cette bâtisse vous a des coffres grands comme des maisons. Est-ce que t'aimerais demeurer dans une de ces maisons-là, Bob ?
Sont-elles en or ?
« Non, mais c'est en or, tout ce qui est dedans, et j'espère que petit bonhomme y logera son argent un jour. »
Toujours les mêmes exagérations de Grip, qui venaient d'un cœur si convaincu. Petit bonhomme l'écoutait à demi, regardant ce spacieux édifice, où tant de fortunes accumulées formaient des tas de millions les uns sur les autres, à en croire le chauffeur du volcan. La promenade fut reprise, allant sans transition des rues misérables aux rues heureuses. Ici les riches, flânant pour la plupart, là les pauvres, tendant la main, sans trop chercher à apitoyer le passant. Et partout des policemen, le skiff à la main, et aussi, pour assurer la sécurité de l'île sœur, le revolver à la ceinture. C'est l'effervescence des passions politiques qui veut cela. Frères, les Paddies, oui, tant qu'une dispute de religion ou une question de home rule ne vient pas les exciter les uns contre les autres. Alors, ils sont incapables de se posséder. Ce n'est plus le même sang des anciens Gaëls qui coule dans leurs veines, et ils iraient jusqu'à justifier ce dicton de leur pays. Mettez un Irlandais à la broche et vous trouverez toujours un autre Irlandais pour la tournée. Et que de statues ! Grip montra à ses deux amis pendant cette excursion. Encore un demi-siècle, il y en aura autant que d'habitants. L'imaginez-vous, cette population de bronze et de marbre, des Wellington, des O'Connell, des O'Brien, des Burke, des Goldsmiths, des Grawan, des Thomas More, des Crampton, des Nelson et des Guillaume d'Orange et des Georges, qui, à cette époque, n'étaient encore numérotés que de 1 à 4. Jamais petit bonhomme et Bob n'avaient vu pareille foule d'illustres personnages sur leurs piédestaux. Et alors, ils s'offrirent une excursion en tram, et tandis que la voiture défilait devant d'autres édifices qui attiraient l'attention par leur grandeur ou leur disposition, ils questionnaient Grip, et Grip n'était jamais à court. Tantôt c'était un de ces pénitenciers où l'on enferme les gens, tantôt l'un de ces workhouse où on les oblige à travailler, moyennant une très insuffisante rétribution. « Et ça ?» demanda Bob, en désignant un vaste bâtiment dans Coombe Street.
« Ça ?» répondit Grip. « C'est la Wagon School. »
Que de souvenirs douloureux ce nom éveilla chez petit bonhomme. Mais si c'était sous un de ces tristes abris qu'il avait tant souffert, c'était là qu'il avait connu Quip, et cela faisait compensation. Ainsi, il y avait derrière ces murs tout un monde d'enfants abandonnés. Il est vrai, avec leurs jerseys bleus, leurs pantalons grisâtres, de bons souliers aux pieds, un béret sur la tête, ils ne ressemblent guère aux déguenillés de Galway, dont M. O'Botkins prenait si peu souci. Cela tenait à ce que la Société des missions de l'Église d'Irlande, propriétaire de cette école,
cherche des pensionnaires autant pour les élever et les nourrir que pour leur inculquer les principes de la religion anglicane. Ajoutons que les Wagon School catholiques, tenues par des religieuses, ne laissent pas de leur faire une très heureuse concurrence. Enfin, toujours pilotés par leur guide, Petit Bonhomme et Bob quittèrent le tram à l'entrée d'un jardin situé à l'ouest de la ville et dont le cours de la Liffey forme la limite inférieure. Un jardin, c'est ma foi bien un parc de 1750 acres, Phoenix Park, dont Dublin a le droit d'être fier. Des futaies d'ormes d'une venue superbe, des pelouses verdoyantes où paissent vaches et moutons, des taillis profonds entre lesquels bondissent les chevreuils, des parterres étincelants de fleurs, des champs de manœuvre pour les revues, de vastes enclos appropriés aux exercices du polo et du football. Que manque-t-il à ce morceau de campagne conservé au milieu de la ville ? Non loin de la grande allée centrale s'élève la résidence d'été du Lord Lieutenant, ce qui a nécessité la création d'une école et d'un hospice militaire, d'un quartier d'artillerie et d'une caserne pour les policemen. On assassine cependant à Phoenix Park, et Grupp montra aux enfants deux entailles disposées en forme de croix le long d'un fossé. C'est là que près de 3 mois avant, le 6 mai, presque sous les yeux du Lord Lieutenant, le poignard des Invincibles avait mortellement frappé le secrétaire et le sous-secrétaire d'État pour l'Irlande, M. Burke et Lord Frederick Cavendish. Une promenade dans Phoenix Park, puis jusqu'au Zoological Garden, qui lui est annexé, termina cette excursion à travers la capitale. Il était 5 heures lorsque les deux amis prirent congé de Grip pour revenir à leur garni de St. Patrick Street. Il était convenu que l'on devait se revoir chaque jour, si cela était possible, jusqu'au départ du steamer. Mais voici que Grip dit à Petit Bonhomme au moment où ils allaient se séparer. « Eh bien, mon boy, t'est-il venu quelque bonne idée pendant cet après-midi ?»«
Une idée, Grip ?»«
Oui. Qu'est-ce que t'as décidé que tu feras ?»«
Ce que je ferai, non, Grip, mais ce que je ne ferai pas, oui. Reprendre notre commerce de Cork, cela ne réussirait guère à Dublin. Vendre des journaux, vendre des brochures, il y aurait trop de concurrence. »«
C'est mon avis, » répliqua Grip. « Quant à courir les rues en poussant la charrette, je ne sais. Quels articles pourrait-on débiter ? Et puis, ils sont en quantité à faire ce métier-là. Non, peut-être serait-il préférable de s'établir, de louer une petite boutique.
V'là qu'est trouvé, mon boy !
Une boutique dans un quartier où il passe beaucoup de monde, du monde pas trop riche, une de ces rues des Libertés, par exemple. »
On ne pourrait imaginer mieux, répliqua Grip.
Mais qu'est-ce qu'on vendrait ? Demanda Bob.
Des choses utiles, répondit Petit Bonhomme. De ces choses dont on a le plus généralement besoin.
Des choses qui se mangent alors, répartit Bob. Des gâteaux, n'est-ce pas ?
Qu'est gourmand ! S'écria Grip. Ce n'est guère utile, des gâteaux.
Si, puisque c'est bon.
« Ça ne suffit pas. Il faut surtout que ce soit nécessaire, » répondit Petit Bonhomme. « Enfin, nous verrons. Je réfléchirai. Je parcourrai le quartier là-bas. Il y a de ces revendeurs qui paraissent avoir un bon commerce. Je pense qu'une sorte de bazar... »«
Un bazar ! C'est ça !» s'écria Grip, qui voyait déjà le magasin de Petit Bonhomme avec une devanture peinturlurée et une enseigne en lettres d'or.
« J'y penserai, Grip. Ne soyons pas trop impatients. Il convient de réfléchir avant de se décider. »«
Et n'oublie pas, mon boy, que tout mon argent, je le mets à ta disposition. Je ne sais comment l'employer, et positivement, ça me gêne de l'avoir toujours sur moi. »«
Toujours ?
Toujours, dans ma ceinture. »«
Pourquoi ne le places-tu pas, Grip ?
Oui, chez toi. Le veux-tu ?
« Nous verrons.
plus tard, si notre commerce marche bien. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, c'est la manière de s'en servir, sans trop de risques et avec profit.
N'aie pas peur, mon boy. Je te répète, tu feras fortune, c'est sûr. Je vois des centaines et des milliers de livres.
Quand parle Vulcan, Grip?
Dans une huitaine.
Et quand reviendra-t-il?
Pas avant 2 mois, car nous devons aller à Boston, à Baltimore, je sais pas où, ou plutôt partout où il y aura une cargaison à prendre.
Et à rapporter, répondit petit bonhomme avec un soupir d'envie.
Enfin, ils se séparèrent. Grip prit du côté des docks, tandis que petit bonhomme, suivi de Bob et de Burke, traversait la lycée afin de regagner le quartier de Saint-Patrick. Et que de pauvres, que de pauvresses ils rencontrèrent sur leur chemin. Que de gens abrutis, titubants sous l'influence du whisky, du gin. Et à quoi a-t-il servi que l'archevêque Jean, au concile de 1186, réuni dans la capitale de l'Irlande, eût si furieusement tonné contre l'ivrognerie? 7 siècles après, Paddy buvait encore outre mesure, et ni un autre archevêque ni un autre concile n'auront jamais raison de ce vice héréditaire.